Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Bonjour, je suis Pierrick Fay, le présentateur du podcast des Échos. Cette semaine, la story se met en pause lecture. 4 épisodes pour vous raconter des tranches de vie et des destins parfois extraordinaires. Si on enlevait les élèves teigneux et l'administration absurde, l'enseignement deviendrait un petit coin de paradis. Les profs qui se coltinent à longueur de journée des loustiques excités dans des lycées craignos sont de vrais héros. Pendant 3 ans, Sylvain Bersinger a accumulé les postes au sein de l'éducation nationale, dans le supérieur comme dans les lycées professionnels ou agricoles. Tout n'a pas été aussi craignos que le laissent penser ces 2 phrases tirées de son livre, et cela vous étonne qu'on ne trouve plus de profs chez Henrik Éditions.
Tu m'étonnes, John!
Mais après avoir embrassé cette profession, il a décidé de la quitter pour devenir économiste au cabinet Asterès, enseigner, éduquer, des missions nobles et nécessaires dans une institution en perpétuelle réforme. La fin de cette année est encore marquée par un branle-bas de combat autour de l'éducation nationale, avec notamment un plan présenté par le ministre Gabriel Attal pour redresser le niveau des élèves. Mais y aura-t-il encore des profs pour ça ?
Ah bravo!
Mais non, j'allais écrire mon reprofiteur!
C'est ça, moi je suis la reine d'Angleterre! J'ai expliqué ça, monsieur le directeur!
Rarement dans ma carrière, il m'a été donné de souffrir pareille provocation. Je me fais du souci pour vous, mon jeune ami.
Que suggérez-vous, le bouillon?
Du bon.
Je propose de lui faire copier 300 fois « Je ne dois pas souiller d'inscriptions ignominieuses les portes de mon établissement scolaire, lieu dédié à l'éducation et à l'élévation spirituelle dans les valeurs de la République. »
Enfin, jusqu'à établissement scolaire, ça ira.
Bonjour Sylvain Bersinger.
Bonjour.
Pourquoi ce livre ? Pourquoi avez-vous eu envie de raconter cette expérience de prof ?
Ce livre, alors c'est déjà une réédition d'un livre qu'on avait publié il y a quelques années, et puis là on l'a un peu complété, on l'a présenté différemment. Pourquoi ce livre ? Parce que déjà c'est très plaisant à écrire, je trouve. Avec quelques années de recul, on laisse retomber quelques années les choses, et puis on y repense, on se dit qu'est-ce qu'on en retient, qu'est-ce qu'on en a gardé. Donc c'est un exercice je crois que tout livre est avant tout assez personnel. Et puis aussi, c'est une expérience que j'ai vécue dans l'enseignement, que j'ai pas voulu continuer, et je me suis dit qu'il y a peut-être des gens que ça peut intéresser, notamment des jeunes qui seraient à bac plus 3, plus 4, qui se questionneraient sur leur orientation professionnelle, et d'avoir un retour comme ça, c'est aussi... je pense que les expériences, c'est fait aussi pour être partagé, sinon ça sert pas à grand-chose.
On verra si ça leur donnera ou pas envie de franchir le pas. L'objectif, c'était pas d'expliquer en économiste votre métier d'aujourd'hui, le manque d'attrait pour ce métier ?
Oui, aussi, c'est un métier, moi, que je trouve passionnant, que j'ai fait pendant 3 ans, et je regrette pas du tout cette expérience. Mais je trouve un petit peu dommage qu'il y ait, à mon avis, un certain nombre, probablement, de réformes qui devraient être faites, ou qui pourraient être faites, ou en tout cas qui pourraient être posées sur la table et qui ne le sont pas. Et donc, on dit que l'enseignement, c'est le plus beau métier du monde, et je pense que c'est pas infondé, parce que c'est vraiment un métier qui peut être passionnant. Et c'est un peu dommage qu'il ne le soit plus vraiment, ou en tout cas que dans le discours ambiant, on n'ait plus forcément cette perception. Et donc, il y avait aussi un petit côté, sur la base de ma modeste expérience, qu'est-ce qui pourrait être changé ? Et voilà, moi, je fais partie de ces gens qui ont été enseignants, qui ont envisagé une carrière dans l'enseignement, qui ne l'ont pas continué. Donc, c'est aussi un peu une explication des difficultés de recrutement dont on parle tant.
Pourquoi et comment est-ce que vous étiez devenu prof ?
En fait, j'ai toujours eu un petit peu cette fibre. À la base, je voulais faire une thèse et être prof dans le supérieur, maître de conférence, etc. Et je raconte d'ailleurs que ma première expérience dans l'enseignement, c'est en travaux dirigés à l'université quand j'ai commencé cette thèse, et que j'ai arrêté pour tout un tas de raisons. bon, ça me convenait pas. Et après, j'ai fait diverses choses en Allemagne ou ailleurs, j'ai un peu bourlingué, comme font beaucoup de jeunes. Mais j'avais toujours ce côté enseignant en moi. Je crois que j'ai toujours un peu ça, même dans mes livres, des fois j'aime bien. Le côté vulgarisateur me plaît beaucoup. Et donc, je me suis dit, bah, pourquoi pas enseigner, quoi, essayer en lycée. Donc, moi, j'étais vacataire, hein, pendant 3 ans dans différents établissements. Voilà, je savais pas du tout si ça allait me plaire, si j'allais continuer 40 ans ou 6 mois. Bon, j'ai continué 3 ans, mais il y avait un côté un peu, ben, ça me tente, essayons et on verra, quoi.
Vous n'avez pas tenté le concours, hein?
J'ai pas tenté, je me suis inscrit, je sais plus si c'était au bout de l'inscription même, j'avais pensé le faire, j'avais commencé à regarder les concours, qu'est-ce qu'il fallait faire, parce que quand on est déjà en interne, ça peut être plus facile après de passer les concours internes, donc j'y ai pensé, ça m'a traversé l'esprit, mais j'ai pas senti ma vocation suffisamment ferme pour aller au bout du concours.
Vous vous souvenez de votre premier cours ?
Alors mon premier cours devant des élèves, c'était donc à l'université, hein, l'université Lyon 2, très beau bâtiment au bord du Rhône, donc un cours de travaux dirigés où je devais avoir 3 ans de plus que mes élèves à peu près, comme c'est souvent le cas. Oui, c'est des choses dont on se souvient, premier jour dans un nouveau travail, premier jour devant des élèves. Oui, non, je m'en souviens très bien, ouais, une belle expérience.
C'est compliqué de se retrouver face à un auditoire comme ça ?
Je pense que ça dépend beaucoup des caractères. Il y a des gens qui sont profondément réservés, timides. Dès qu'ils sont devant un public ou devant un micro, ils sont bloqués. Donc, je pense que pour certaines personnes, c'est compliqué. Moi, le côté enseignement, je suis pas du genre à être bloqué au tableau quand il faut que j'explique quelque chose. Donc, pourtant, je suis plutôt timide par certains aspects, mais ce côté-là des choses me dérange pas. Donc, alors évidemment, il y a une petite tension. On a un petit boule au ventre. Ça, c'est évident la première fois, mais ça m'a pas paru compliqué, je dirais.
Il y a une anecdote que vous racontez, hein, une de vos premières fois au lycée, vous étiez arrivé en costard-cravate ?
Oui, alors j'avais 25-26 ans au début, au lycée, et alors il se trouve que je sortais d'un poste de commercial où j'avais trouvé vague poste de commercial qui m'avait pas du tout convenu, j'avais arrêté au bout d'une semaine, mais il a fallu que j'achète des costards, donc je me retrouvais avec 2 ou 3 costards, donc je n'avais que faire, et je me suis dit, ben voilà, quand on est jeune prof, on arrive toujours en salle des profs, et puis on se fait engueuler, ouais, qu'est-ce que t'as à faire là, va dans la cour, etc., parce que tout le monde vous prend pour l'élève, et je me suis dit, ben puisque j'ai ces costards, je vais les mettre, comme ça, ben on me prendra pas pour l'élève, quoi. Pour un peu le côté, l'autorité par le vêtement, alors qu'il n'a pas marché du tout, mais voilà, c'était un peu l'idée. Pour pas me faire prendre par l'élève, par tout le monde, au moins le costard-cravate permet cette différenciation.
J'ai balancé le costard, la cravate, la moustache. J'ai tiré un trait sur toute cette partie-là de ma vie.
Alors, il y a plusieurs angoisses quand on est jeune professeur. Il y a de se retrouver face à des bacs pro, notamment. C'est ce que vous expliquez, ça n'a pas toujours été facile.
Alors, moi, j'ai eu une classe dans mes trois lycées où j'ai été. J'ai une classe qui était vraiment rugueuse. Il se trouve que c'était une classe de bac pro. Alors, je ne veux pas forcément stigmatiser les bacs pro. J'aime pas trop creuser le sillon des clichés. Mais oui, c'était une classe où il y avait quand même beaucoup d'élèves qui n'aimaient pas l'école, hein, faut dire ce qui est, et qui étaient clairement là pour tester l'autorité, pour se chamailler entre eux, pour voir jusqu'où ils peuvent aller trop loin. Et ouais, c'était une classe vraiment, vraiment épuisante. Voilà, j'ai compris que des profs puissent littéralement péter des câbles, quoi, parce que ça peut être vraiment dur, pas physiquement, mais enfin psychologiquement, c'est pas évident.
Heureusement, toutes les classes sont pas comme ça. Mais
heureusement.
Je voudrais juste citer un passage, que c'est vrai que ça rappelle aussi votre verve, hein, qu'on retrouvait dans vos précédents livres consacrés à San Antonio ou celui plus récent à Michel Audiard, hein, l'économie expliquée par Michel Audiard et les tontons flingueurs. Là, vous parliez d'une de vos collègues, vous aviez, alors vous, un master en économie finance, elle a un doctorat en sciences sociale, ça nous a pas été d'un grand secours. Une solide expérience dans un escadron de CRS ou un bataillon de parachutistes eût été 100 fois préférable. C'est un peu exagéré quand même.
C'est un peu exagéré, mais il y a un peu de ça. Elle, donc je remplaçais cette collègue qui était en congé maternité, qui était une trentenaire très calme, très douce et qui se faisait bouffer, quoi. Elle arrivait vraiment pas. Moi, j'avais du mal à tenir cette classe. Tous les collègues, on avait tous du mal, mais elle, c'était vraiment très difficile. Elle m'avait raconté que son bébé, elle sentait quand elle allait dans ce cours, je crois que je le raconte dans le livre, je sais plus, son bébé était stressé et se tordait dans son ventre de manière inhabituelle, parce que tellement qu'elle-même était stressée, en fait son bébé le ressentait, et je crois qu'elle a beaucoup galéré avec cette classe. Oui.
Quel a été le déclic, ce moment où vous vous êtes dit bah, ça suffit, j'arrête, c'est pas pour moi?
Alors je raconte une anecdote qui est véridique dans le livre, hein. Il y a cette anecdote, mais il y a beaucoup d'autres choses. Donc dans cette fameuse classe un peu rugueuse, il y a un élève qui pète bruyamment et qui est tout content de sa prouesse, donc il y a évidemment toutes les filles, ah ça pue machin, bon alors je vais ouvrir la fenêtre, mine de rien. rien. Et après, évidemment, toutes les filles, ah, il fait froid, on peut fermer la fenêtre. Et je me souviens du moment où j'ai empoigné la poignée de la fenêtre et me dire, mais qu'est-ce que je fous là, quoi? J'ai fait des études, j'ai mes anciens camarades qui sont aux quatre coins du monde, à Wall Street, à la City ou je ne sais où. Et moi, je suis là, au fin fond de la France profonde, pas forcément très bien payé. Et mon métier, c'est de savoir s'il faut ouvrir ou pas la fenêtre quand il y a un petit con qui a pété, quoi.
Ça pue ici! Vous avez pas refermé le baril de hareng?
Et je me souviens d'avoir eu un flash comme ça. Bon, après, il y a eu d'autres événements qui ont fait que j'ai pas voulu continuer, mais voilà, il y a des petites choses comme ça où on se dit, est-ce que j'ai envie de faire ça pendant 40 ans?
Ouais, vous êtes dit justement, mieux vaut arrêter que rester un enseignant moyen pendant 40 ans, c'est vos mots.
Hein. Oui, je pense, j'ai pas été un mauvais enseignant, mais j'ai pas été forcément brillant non plus, et je pense que c'est un métier, soit on le fait avec passion, soit on le fait pas, quoi. Moi, j'ai eu, en tant qu'élève, et j'avais des collègues, clairement, qui faisaient ça parce que sinon, ils étaient au chômage et qu'ils avaient pas envie de faire une reconversion professionnelle qui peut être difficile. Et ça fait des mauvais profs, ça fait des profs aigris, ça fait des élèves qui progressent pas, donc qui sont eux-mêmes aigris. Et je trouve que l'enseignement, c'est vraiment un métier de communication entre êtres humains. Et soit on a un petit peu le feu en soi pour le faire, soit il vaut mieux faire autre chose. Parce que je pense que c'est un métier qu'il faut pas faire quand on le fait mal. Alors je dirais que c'est vrai de tous les métiers, mais vu que c'est un métier très de l'humain, de la communication, c'est à mon avis encore plus vrai. Si vous êtes derrière un tableau Excel sans passion, à la limite le tableau Excel il s'en fiche de votre état d'âme. Alors qu'un élève c'est pas du tout la même chose. Donc j'ai préféré arrêter plutôt que de devenir un prof ronchon pendant 30 ans, comme il y en a malheureusement un certain nombre.
Silence ! C'est très facile, faites pas semblant d'être plus nul que vous l'êtes. Il n'y a qu'à appliquer le principe d'Archimède.
Archimède, qu'est-ce qui nous prouve qu'il a existé, Archimède?
Alors moi, les meneurs et les petits malins, je leur pète la gueule dès le début de l'année. Comme ça, c'est tout de suite réglé.
N'empêche que Archimède, on ne sait pas si...
De la part d'Archimède.
Ouais, dans ce livre, vous évoquez justement quelques anciens collègues avec cette question délicate. C'est quoi être un bon prof? Mais il y a aussi des souvenirs de certains élèves, plus ou moins doués, plus ou moins travailleurs, plus ou moins chahuteurs. Et cette question que je me pose aussi, est-ce souhaitable de mener 80% d'une classe d'âge au bac?
Pas forcément. C'est vrai qu'on a un petit peu en France, c'est peut-être moins vrai dans les pays germaniques, cette volonté de dire les études, disons intellectuelles, sont les plus prestigieuses et les études plus manuelles ou plus pratiques, plus professionnalisantes, sont un petit peu dénigrées ou en tout cas moins considérées. Et je pense que c'est un peu dommage parce que c'est vrai que des fois, moi j'en ai eu dans mes classes, hein, des jeunes qui sont pas scolaires, qui ont pas l'esprit pour ça, quoi. Être assis sur une chaise, à faire des dissertations d'économie, c'est pas leur truc. Mais les parents, c'est notamment les parents, à mon avis plus que l'école là-dedans, qui les poussent, qui disent voilà, je veux que mon enfant fasse telle filière. Et donc des élèves qui des fois vont redoubler plusieurs fois, vont être un peu en difficulté, en souffrance. Alors que sur des filières plus professionnalisantes, ils auraient peut-être plus pu s'épanouir, et quitte à reprendre après des études au cours de leur vie. Donc c'est vrai que je trouve qu'on a malheureusement, on considère avec un peu de dédain les filières professionnalisantes, et dont l'enseignement agricole. D'ailleurs, j'en parle parce que j'ai enseigné dans l'enseignement agricole. Et je trouve que c'est un peu dommage parce qu'on sait très bien, et on le voit dans l'exemple en Allemagne, en Suisse, où il y a des filières professionnalisantes qui marchent bien. Les élèves sortent à 16, 18, 20 ans selon le niveau, avec un diplôme professionnalisant concret, des entreprises derrière qui sont prêtes à les embaucher. Et voilà, il n'y a pas de chômage, il y a une insertion professionnelle qui peut être très fluide. Et je pense qu'il faut, alors il ne faut pas que, évidemment, que tous les élèves fassent ça, mais il faut vraiment considérer qu'une filière professionnalisante de type bac pro, BTS, bac techno puisse être aussi une vraie formation. Et on sait très bien qu'il y a plein de métiers où il y a des ouvriers qualifiés qui gagnent leur vie mieux que des docteurs en sciences humaines ou dans certaines disciplines. Donc voilà, je crois qu'il y a une petite perception peut-être à changer, mais des habitudes ont la vie dure.
Quel type d'élève vous étiez plus jeune?
Oh, moi j'étais alors plutôt du genre calme, j'étais pas du genre à avoir des heures de colle, j'étais pas forcément le premier de la classe, pas le dernier non plus, j'étais on va dire dans la moyenne haute, plutôt sérieux, je faisais mes devoirs, je faisais ce qu'on me demandait, mais j'étais pas brillant, je préférais le sport à l'époque, mais je pense que c'est très bien pour être prof de ne pas avoir été trop brillant à l'école. Je trouve que les élèves trop brillants ne comprennent pas qu'on puisse ne pas comprendre et ne font pas forcément les meilleurs profs. Et je pense que s'être pris quelques bonnes boîtes dans certaines matières, ça peut aider en tout cas pour se retrouver face à une classe et comprendre la difficulté de l'élève.
Et vous racontez notamment vos difficultés à assimiler le complément d'objet direct. Hein, voilà, il y a tout un passage dessus. Votre carrière, elle a finalement été assez courte, hein, vous le disiez, 3 ans avec des expériences très variées dans l'enseignement catholique, dans des lycées agricoles, vous le disiez, auprès de bac pro. Pour autant, est-ce que c'est pas trop court, 3 ans, pour finalement cerner ce que vous appelez le plus beau métier du monde ?
Alors, oui, alors, c'est un peu court, mais je pense que ça suffit quand même, parce que bon, 3 ans, j'ai fait aussi un petit peu avant et après en fac des TD, donc on a quand même le temps dans plusieurs types d'établissements, avec donc, de la seconde au BTS, donc un panorama quand même assez large. Après, c'est sûr que plus on continue, plus on peut trouver d'autres voies, mais moi, j'avais cette sensation que j'avais plus envie de faire ça pendant encore 10 ou 20 ans, et j'ai clairement senti dans mon dernier poste que, voilà, je commençais à en avoir marre, et après, oui, peut-être que si j'avais continué, j'aurais peut-être vu des choses différentes, mais je pense que c'est des choses un peu personnelles, on le sent ou on le sent pas, et moi, j'ai senti qu'il fallait que j'arrête.
Que faudrait-il faire pour rendre ce métier plus attractif aujourd'hui ?
Alors, vaste programme. Je pense que pour beaucoup de jeunes, et moi ça a été mon cas, quand on a 20 et quelques, et qu'on passe le concours, et on se dit, ben, ok, je vais faire de l'enseignement jusqu'à la retraite, donc jusqu'à 60 et quelques. Bon, d'ici là, il y aurait d'autres réformes, donc on va dire jusqu'à 64 ou 5, je sais pas.
Ce que vous appelez prof à vie. Hein.
Voilà, prof à vie. Et alors, ça peut être passionnant. Moi, j'avais des collègues qui adoraient ça, c'était leur passion, et tant mieux, je veux dire, c'était des très bons profs. Mais je trouve que pour beaucoup de gens, et moi ça a été mon cas, en fait, c'est un métier très monotone quand même. Hein. Si vous êtes, mettons, prof de SES dans mon cas, bah pendant plusieurs décennies, vous avez... Bon, alors les programmes changent très peu, on change quelques virgules ici ou là, mais vous allez répéter à peu près la même chose, face à peu près les mêmes classes, pendant toute votre vie professionnelle. Et c'est un univers qui est quand même assez fermé, assez cloisonné, il y a peu de possibilités d'évoluer. Il y en a, hein, mais c'est pas... La voie traditionnelle, c'est quand même de faire ça toute sa vie. Il y a peu de liens avec le monde extérieur, donc peu de reconversion possible. Et je pense que pour beaucoup de jeunes aujourd'hui, se dire, bah voilà, je vais faire que ça, même si ça me plaît, même si moi c'était mon cas, je crois qu'il y a beaucoup de jeunes qui disent, bah oui, ça pourrait me plaire. Mais c'est dire, je me mets dans une voie. Et c'est pour ça aussi, c'est pour rebondir sur votre question, pourquoi est-ce que j'ai arrêté un peu vite aussi, c'est que si on y passe 10 ou 15 ans, la reconversion est plus dure après aussi. Donc,
C'est ce que vous dites, faudrait peut-être leur permettre de faire autre chose pendant quelques années et de revenir sans forcément repartir au tout début, en fait.
Oui, mais je crois qu'il y a à la fois beaucoup de profs, de ce que j'ai pu en voir en salle des profs, parce qu'évidemment, on discute avec les collègues. C'est pas qu'ils aiment pas leur métier, mais ils aimeraient aussi voir autre chose. Et je crois qu'il y a beaucoup de gens à l'extérieur du système de l'enseignement, moi je le vois avec des collègues économistes, qui aimeraient enseigner, qui se disent, bah ouais, pourquoi pas, moi je serais prêt à accepter X% de baisse de mon salaire parce que ça me plairait d'enseigner. Et vu qu'on a un peu des carrières en silo, c'est-à-dire que la carrière typique de l'enseignant, c'est on passe le concours à 20-25 ans et on passe toute sa vie. Les reconversions sont pas faciles et je pense qu'on pourrait trouver plus de profs parce qu'il y a toujours cette question des pénuries. À mon avis, chaque rentrée, on va en parler pendant des années. Il y a beaucoup, à mon avis, de professionnels extérieurs au monde de l'enseignement qui aimeraient. Mais le problème, imaginez, vous êtes un économiste de 40 ou 50 ans. Si vous vous dites, bah, j'aimerais faire de l'enseignement, vous allez commencer sur un poste de vacataire au salaire le plus bas. Et en fait, vos 20 ans d'expérience professionnelle d'économiste ne sont pas du tout considérés, en fait, alors que vous avez quelque chose à apporter. Et donc, je pense que ça pourrait être une piste de faciliter le brassage des carrières et de se dire, bah voilà, un professionnel qui a 20 ans de bouteille et qui vient enseigner, il a quelque chose à dire, donc il a une valeur, parlons gros sous, il a une valeur sur le marché, et donc on le prend avec un salaire, on va dire qu'il n'est plus un salaire tout à fait de débutant non plus.
Mais ça, c'est pas très bien accepté non plus par les profs eux-mêmes.
Ah bah évidemment, parce que ça crée une nouvelle concurrence. Je dis pas que ce que je dis là est forcément bien vu ou partagé par tout le monde dans le monde de l'enseignement, mais je trouve qu'il y a un problème de carrière assez figé qui d'un côté font fuir certains jeunes et qui de l'autre privent l'enseignement de tout un tas de compétences, de bonne volonté qui seraient prêtes à venir enseigner, même avec des pertes de salaire. Mais c'est sûr que si vous revenez sur un salaire de vacataire débutant, c'est quand même un salaire assez faible, alors qu'on pourrait dire, ben voilà, des gens qui ont une grosse expérience, ils vont venir sur un... On va considérer cette expérience dans le monde professionnel comme étant valorisable sur les grilles de salaire de l'enseignement. Je dis pas que c'est très populaire ce que je dis là, dans le monde de l'enseignement, mais je pense qu'il y a vraiment un vivier de gens intéressés par l'enseignement, ou potentiellement intéressés, dont on se prive en fait.
Alors aujourd'hui, on invente un exercice, on le fait, on le corrige, tout seul et en silence. Hop, c'est parti.
Le monde de l'enseignement souffre de son repli sur lui-même, c'est ce que vous décrivez et ce que vous expliquez aujourd'hui au micro de la story. On a pu voir effectivement les cris d'orfraie quand on a voulu embaucher des profs via Pôle emploi sans passer par le concours. Il y a cette question des salaires aussi qui revient assez régulièrement. On voit que certaines promesses ont été faites, n'est pas forcément tenues, ce qui a provoqué certaines colères dans les rangs des syndicats d'enseignants. Mais vous expliquez, vous, que le salaire n'est pas forcément tout, et vous émettez aussi une idée originale qui ne sera pas forcément bienvenue non plus, ou en tout cas bien appréciée. C'est, en fait, vous ne comprenez pas pourquoi les jeunes profs sont moins bien payés que les vieux.
Alors, Sur la question des salaires, je pense que bien sûr, si on augmentait tous les salaires de 50%, ça attirerait plus de monde, évidemment. Mais après, il y a aussi une contrainte budgétaire qui est là. Moi, je suis pas tant pour augmenter tous les salaires des profs, mais je trouve qu'il y a des profs qui sont objectivement pas assez bien payés, notamment les jeunes profs qu'on envoie dans les quartiers, dans les lycées que personne ne veut, en région parisienne, dans le Nord ou d'autres, parce que tous les profs veulent être au bord de la mer, bon, ça se comprend. Mais à l'inverse, je trouve qu'il y a des profs agrégés qui sont là depuis X décennies et qui, pour certains, c'est pas très politiquement correct à dire, mais disons-le, cela coule douce en attendant la retraite, et qui, eux, sont sur des salaires tout à fait confortables. Et donc, moi, je crois pas tant que ce soit une question du salaire des profs, c'est une question du salaire de quel type de prof. Donc, je pense qu'il y a objectivement des profs qui sont pas assez bien payés pour ce qu'ils font, pour la difficulté du travail qu'ils peuvent avoir, et d'autres qui, à mon avis, sont tout à fait assez payés. Et donc, je crois que c'est peut-être plus une réallocation de l'enveloppe globale qu'une hausse de tous les salaires. Et oui, je trouve que la manière dont augmentent les salaires à l'ancienneté dans l'enseignement n'est pas très pertinente et peut décourager aussi des jeunes vocations. Parce que, je veux dire, c'est à 25-30 ans, quand on se lance dans la vie, qu'on a besoin d'un peu plus d'argent. Quand on a 55 ou 60, que l'emprunt immobilier remboursé, que les gosses sont partis, on en a moins besoin. Pourquoi est-ce qu'un jeune prof serait moins compétent qu'un plus vieux ? Il apporte sa jeunesse, il apporte sa fraîcheur, il apporte une certaine proximité avec les élèves. Donc, il y a ces grilles de salaires qui augmentent de manière mécanique à l'ancienneté. Donc, je pense que ça ne changera pas, parce que je pense que les profs, ils sont très attachés. Les profs qui sont là depuis longtemps, ils sont très attachés.
Vous n'êtes pas toujours tendre avec certains de vos anciens collègues. Il y a Pépère et Mémère, notamment, qui apprécieront sans doute. Alors, ils étaient dans le supérieur. Comment votre livre a-t-il été accueilli, d'ailleurs, par le corps enseignant, vous le savez ?
Alors, je ne sais pas du tout. Déjà, mon livre n'a pas eu énormément d'écho. Alors, vous l'aidez à avoir de l'écho, mais je n'ai pas eu forcément de retour. Et ça fait quand même maintenant quelques années que je travaille comme économiste. Donc, j'ai un peu perdu des liens avec mes anciens collègues, donc je sais pas du tout en fait, mais j'ai eu quelques retours de profs, alors pas forcément de collègues, mais de gens qui l'ont lu et qui dans le fond étaient quand même d'accord avec pas mal de choses. Après, évidemment, tout le monde n'est pas d'accord avec tout, mais les quelques retours que j'ai pu avoir, les gens étaient plutôt d'accord avec la... C'est vrai que je suis un peu critique, hein, parce que je suis pas resté dans l'enseignement, donc c'est bien que j'ai des critiques à formuler. Mais en fait, quand vous êtes en salle des profs, vous rendez compte que les pires critiques des profs, c'est peut-être les profs eux-mêmes. Alors après, quand les syndicats de profs sont dans les médias, ils ont un autre discours, mais en salle des profs, on casse beaucoup de sucre sur le dos, sur le ministre, sur le système, sur plein de choses. Donc les profs sont pas forcément tendres avec eux-mêmes.
Il y a aussi l'idée de réduire la taille des classes. Vous dites, plutôt qu'augmenter les salaires, il faut peut-être s'intéresser aux conditions de travail, effectivement, des classes de 35, 37. 38 élèves en première ou en terminale, c'est compliqué de les aider à bien préparer le bac. À quoi ressemblerait l'école idéale pour vous ?
Pour moi, l'école alors, idéale, entre guillemets, ce serait une école un peu plus ouverte sur le monde, un peu plus ouverte sur l'international déjà, parce que en fait, on ne sait pas très bien ce qui se fait à l'étranger. Quand un prof français va à l'étranger, il va à l'étranger en général dans un lycée français, donc avec la même organisation. On nous parle du modèle finlandais, du modèle de Singapour, du modèle de ceci, cela. En fait, on n'en sait rien. On sait vaguement, mais donc je pense qu'il faudrait déjà essayer de brasser avec ce qui se fait à l'étranger. On trouverait peut-être des nouvelles façons de faire. Et si il y avait des profs étrangers qui venaient dans nos classes, ils diraient peut-être, mais enfin, vous faites ça, mais c'est complètement bête, pourquoi vous faites pas autrement ? Et puis sur le monde professionnel, je ne vais pas dire de l'entreprise, sinon on va me dire que je suis un affreux libéral, mais le monde professionnel, ça peut aussi être la fonction publique ailleurs que dans l'enseignement, et c'est à ce titre-là que moi, le modèle de l'enseignement agricole, je le trouve intéressant, parce qu'il est plus ancré sur le monde professionnel, plus ancré sur les débouchés professionnels des élèves, donc il n'y aurait pas besoin d'aller chercher des exemples à l'autre bout du monde. Hein. Alors l'enseignement traditionnel a un certain un dédain pour l'enseignement agricole, et c'est bien dommage parce que brasser les expériences, je crois que toute organisation se renforce d'expériences croisées, de bagages différents, d'idées différentes, et voilà, en apportant des nouvelles idées, je pense qu'on ne peut qu'améliorer la qualité de l'enseignement et le plaisir qu'ont les gens à venir travailler.
Je me trompe peut-être, mais j'ai quand même ressenti une forme de nostalgie du métier d'enseignant à la lecture de votre livre.
Oui, non, mais moi, j'aime beaucoup l'enseignement, je ne regrette pas ces années-là. Je pense que c'est vraiment un très beau métier. On y passe on se rappelle, comme dans beaucoup de choses, on voit toujours les trains qui n'arrivent pas à l'heure, mais il y a aussi plein de très bons aspects, et c'est aussi plein de très bons moments, l'enseignement. Donc,
des élèves que que vous avez aidé à franchir un
oui,
pas,
des,
à progresser.
Des élèves avec qui ça se passe bien, des élèves qui progressent, des collègues bon, qui peuvent être très sympathiques aussi, avec qui on noue des amitiés. Non, c'est un très beau métier. Je pense qu'il n'y a aucune raison pour que l'enseignement soit un peu contraint d'avoir du mal à recruter. À mon avis, avec quelques changements, quelques ouvertures, on pourrait très bien faire venir plein de gens motivés et avoir vraiment un enseignement de très bonne qualité. Parce que la plupart des profs sont compétents, il ne faut pas l'oublier.
Merci Sylvain Bersinger, auteur de « Et ça vous étonne qu'on ne trouve plus de profs » chez Henrik Edition. Demain, dernier invité de cette story de fin d'année, deux épisodes à la rencontre du papa de Prince of Persia. Cet épisode de la story, le podcast des Échos, a été réalisé par Nicolas Jean, chargé de production et d'édition Michel Varnet.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.